Hello, chères auditrices et chers auditeurs du podcast Leader Magnétique. Aujourd'hui, vous m'écoutez, mais vous savez que vous pouvez aussi me lire sur mon blog. Tapez tout simplement dans Google « Parrainage magnétique ». Maintenant, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce qu'un blog de référence en MLM ? Est-ce que ça conduit à parrainer du monde ? En tout cas, pour mon invité d'aujourd'hui, cela représente 1000 rendez-vous sur Zoom en 2 ans grâce à son blog. Je veux parler de Nicolas Benezet, qui pour rendre duplicable le blogging a imaginé un stratagème malin que je vous laisse découvrir. Autre question, comment ChatGPT entre dans le jeu de la création de contenu ? Quel est le plus gros défi pour quelqu'un qui vit de son blog MLM, même pour Nicolas ? D'ailleurs, combien gagne-t-il avec son blog indépendamment de son activité MLM ? Et quels sont les conseils pratiques qu'il nous donne pour obtenir les mêmes résultats ? Et surtout, quelle est la technique magique pour faire des ventes sur les réseaux sociaux ? On écoute Nicolas. Alors bonjour Nicolas et merci d'avoir accepté mon invitation. Alors pour te présenter rapidement, tu vis du MLM, du marketing de réseau, mais à la base tu étais kinésithérapeute, quoi qu'on peut l'être toute une vie, hein, quand on est un professionnel de la santé. Qu'est-ce qui fait que tu es passé d'un métier qui a quand même un certain statut social au marketing de réseau? Qu'est-ce qui explique ce passage?
Un apéro, notamment. Lors d'une discussion un été, tu vois, tu sais, les soirées qui traînent comme ça où tu refais un peu le monde, tu sais, j'avais toujours cette question de me dire, ok, si un jour je me pète le bras, je fais quoi en fait? Tu sais, qui c'est qui va payer ma maison? Tu vois, qui c'est qui peut payer les crédits? Et en fait, j'avais vraiment cette angoisse un peu de quoi faire s'il m'arrivait quelque chose. Donc ça, c'était le premier point. Il s'avère que 3 mois après, je me suis luxé l'épaule, tu vois, en tombant vraiment. Et j'ai vu vraiment ce qui se passait, tu vois, s'il m'arrivait quelque chose de plus grave que ça, tu vois, avec une indisponibilité plus longue. Et ça pouvait être très vite compliqué. Donc ça, c'était le premier point. Et puis après, j'avais toujours, depuis tout jeune, même si j'avais zéro compétence, toujours cette envie, tu sais, d'avoir un truc sur Internet. Avoir un business, alors j'ai vraiment sport, tu vois, donc les paris sportifs, tu vois, tous ces trucs-là, même si j'y connaissais rien, mais j'avais quand même ce truc au fond de moi d'avoir un business en ligne, quoi.
C'est vrai que c'est aujourd'hui l'aspiration de beaucoup, beaucoup de gens de travailler en ligne depuis chez soi et dans le monde entier. C'est une idée qui se généralise. C'est ce que tu observes aussi de ton côté?
Ouais, clairement. Et je pense qu'on l'a vu et je pense que tu as dû le sentir aussi, notamment sur les sites internet, quand il y a eu le Covid où toutes les personnes finalement se sont retrouvées en même temps chez eux, c'est bloqué. Le nombre de recherches qu'il y a pu avoir justement sur vouloir créer des revenus en ligne, c'était assez bluffant, tu vois. Après, quand la réalité du travail a recommencé, finalement, on a vu que les gens reprenaient un peu leur routine, un peu plus à contre-cœur peut-être, mais en tout cas, on a vu que ça pouvait intéresser beaucoup de personnes.
Oui, il y a eu un tournant à ce moment-là. Ouais. Alors, donc, tu t'es lancé dans le marketing de réseau et je ne sais pas si tu le sais ou tu t'en as aperçu, mais sans doute que oui quand même, c'est qu'on a un point commun, c'est que sans Internet, je ne suis pas sûr qu'on aurait fait tous les deux du MLM.
Ouais, je suis 100% d'accord.
Et donc, du coup, moi, je dis ça souvent, c'est grâce à Internet que j'ai pu faire du marketing de réseau. Et donc, toi, tu as démarré avec un blog. C'est le blog qui t'a propulsé.
Oui.
Nicoben.com, c'est devenu même un blog de référence.
Merci.
À un moment donné, je crois que tu faisais entre 40 000 et 50 000 visiteurs par mois.
Oui. Il y a eu ce pic qui correspondait à peu près aux périodes Covid, justement, où ça faisait à peu près 2 000 vues par jour. C'était assez impressionnant. On est revenu à une moyenne différente aujourd'hui, mais il y a eu une époque, effectivement, où c'était monté... relativement, pas forcément plus qualifié, tu vois, mais c'était monté haut.
Et donc, tu as parrainé pas mal de personnes grâce à ce blog. Et parmi ces personnes, il y a des partenaires à toi qui ont souhaité on va dire ça comme ça, dupliquer un petit peu ce que tu faisais avec le blogging. Et tu as dans ton équipe des personnes qui sont assez avancées en blogging MLM. Comment tu expliques que tu aies pu quand même enseigner ça? Parce que fondamentalement, pour dire les choses comme elles sont à nos auditeurs, le blogging, ce n'est pas nécessairement duplicable. Et toi, tu as quand même des partenaires qui ont pu faire la même chose que ce que tu as fait.
Ouais. Et après, voilà, pour être aussi transparent, ça, le pourcentage reste faible, tu vois, de ceux qui ont réussi à mener, tu vois, le blog à terme, parce que finalement, ça marche, hein, ça peut très bien marcher, ça demande, tu sais, une sorte d'assiduité, comme pour tout finalement. Mais effectivement, les gens qui ont été capables de l'amener au bout par rapport aux gens qui ont essayé, si tu veux, ça restait relativement faible. On a essayé pas mal de choses en fait. Quand le blog marchait bien, et c'est pour ça aussi à mon avis qu'il a marché, c'est que j'avais conscience que le blog n'était pas forcément duplicable, mais j'avais conscience aussi que les gens venaient vers moi à un moment donné pour ça. Tu vois, ils rentraient dans mon équipe pour faire du blogging, rentraient dans mon équipe pour
Eh
ça.
oui, eh oui.
Donc finalement, c'était en fin 2020, on avait, et je vais le remercier dans ce cadre-là, mon ami Miguel qui a mis un travail énorme, on avait fait une duplication sur un même site en fait, sur mon site.
Oui.
C'est-à-dire que une personne qui voulait bloguer n'était pas obligée de créer son propre site, il pouvait simplement écrire un article. Et il y avait toute une équipe derrière qui prenait les articles et qui les publiait sur le blog. Chaque personne avait sa page, tu sais, d'écriture avec ses encarts qui était personnel. Alors c'était un gros travail de maintenance, etc. Mais en tout cas, ça a permis à certains de pouvoir avoir une acquisition de prospects sans s'occuper de tous les éléments techniques et de simplement devoir faire l'écriture de
Ouais, c'est
l'article.
très malin ça. C'est très 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 malin parce que ça permet aux personnes de faire l'économie de créer un blog et donc de se concentrer simplement sur l'écriture d'un article. C'est les personnes intéressées écrivaient elles-mêmes leurs articles.
Ouais, c'est ça. Et elles écrivaient eux-mêmes leurs articles. Alors, il y avait un référent SEO qui est Damien Renneville, que tu connais peut-être, qui a son
Oui.
site internet, qui est vraiment spécialisé dans le SEO, qui donnait des sujets d'articles. Les gens piochaient dedans, faisaient leurs enquêtes, interviewaient des personnes, etc. Derrière, il y avait des personnes un peu plus techniques qui prenaient les articles, qui les faisaient, qui les adaptaient par rapport c'est à la police, enfin voilà, toutes ces éléments techniques, qui mettaient les templates qui correspondaient à l'écrivain, etc. Donc c'était un gros travail en off, mais on était plusieurs et du coup c'était assez gérable. Mais pour les personnes, ça facilitait le travail clairement. Ouais.
Ah ouais, c'est vraiment très 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 malin. Et comment tu vois l'avenir du blogging en MLM?
Ouais, c'est une question que j'adore, tu vois, mais c'est pas évident de répondre, tu vois. Et je pense que de toute manière, pour l'instant, on a toujours besoin d'une source, quoi. On a toujours besoin d'une source, mais je sais pas comment ils vont récompenser cette source, en fait. Je sais pas comment Google va pouvoir récompenser ceux qui vont alimenter leurs robots, tu vois, leurs AI. Mais je pense qu'à un moment donné, ils vont être obligés. Parce que sinon, il y aura plus de créateurs. Ils sont obligés d'avoir des, enfin, je sais pas, la question est assez bizarre. D'autant plus, je sais pas si tu as vu, il y a eu des ajustements là dans Google. Je crois que c'est la semaine dernière. Donc, tu vois,
Oui.
celui qui est premier de la liste de la première page de Google a
Oui.
un gros résumé de son article qui est très visible, encore plus loin avec du gras, etc., qui met vraiment en avant. On serait même plus obligé d'aller dans l'article. Donc, on se demande si effectivement il faut être en premier. Mais bref, ouais, je sais pas. Je sais pas comment ils vont pouvoir récompenser ça. Mais ils vont être obligés à un moment donné. Sauf si l'IA prend vraiment, tu sais, la main sur même l'ébauche de nouvelles idées, etc. Mais
Et alors parlons d'intelligence artificielle. Est-ce que tu es en train d'imaginer une façon de s'adapter à ChatGPT,
ouais.
à ces possibilités fabuleuses finalement de créer du contenu en masse comme,
Ouais, après, tu vois, je pense que toi, tu es la référence de l'écriture d'articles. J'ai jamais vu des articles écrits aussi bien que sur ton blog. Et je
Merci.
pense que, tu vois, ChatGPT est bien moins performant que toi. Pour l'instant, tu vois, quand je fais des demandes à ChatGPT, j'imagine que toi, c'est la même chose, je le trouve moins bon que nous, tu vois. Donc, pour l'instant, tu vois, je suis pas trop inquiet. J'imagine qu'évidemment, ça va s'améliorer. Mais toujours pareil, normalement, ça va s'appuyer sur des sources existantes. Donc voilà. Moi, je pense que voilà. Pour moi, le truc qui va être le plus fou, c'est justement la création de vidéos, la création de choses comme ça par rapport à un scénario, tu vois, que tu vas écrire toi-même, tu vois. Et là, je pense que ça peut avoir du sens. Tu sais, bon après on part dans des délires, mais tu sais quand genre on accueille les gens dans nos équipes avec des vieilles diapos, ben là on pourrait créer des vidéos, tu vois, pour amener un sentiment d'appartenance encore plus fort, tu vois. Donc ouais, je pense qu'au niveau visuel, tu vois, ça peut avoir un gros impact, mais je pense que le fond, pour l'instant, on a encore un peu de temps pour amener sa notoriété encore.
Oui. En tout cas, un conseil qu'on peut peut-être donner, je ne sais pas si tu es d'accord avec ce conseil, à nos auditeurs, c'est que ce que Google va prendre en considération, c'est les articles très factuels, c'est-à-dire très documentés, très référencés, sourcés, avec des chiffres, etc., des statistiques, etc. Ça semble plaire à Google. Je ne sais pas si toi, tu as la même info.
Non, j'avais pas eu l'info. Ok.
Et donc, moi, ce que j'essaie de faire en ce moment, c'est de démarrer tous mes articles par des stats.
Ok.
Ouais, ça peut être intéressant. Voilà, il faut
Ouais,
tester
c'est
pour
clair.
voir.
C'est clair. Ouais. Et en même temps, c'est vrai que pour eux, du coup, c'est une source qui est hyper facile à trouver, quoi. Là, pour le coup, quand c'est chiffré, du coup, ça veut dire qu'on a une réponse très claire à une question. Donc pour eux, c'est vrai que ça peut être un super élément. Comment tu vois, je suis curieux, est-ce que je peux inverser le truc? Comment tu vois, toi, tu sais, justement, l'intelligence artificielle dans la création de contenu et notamment sur Google, etc. Comment ils peuvent
Ben,
permettre aux créateurs d'être mis en
d'abord,
avant?
il y a un bruit qui a couru selon lequel Google assimilerait les contenus produits par de l'IA à du spam. Et en fait, non, c'était une fausse rumeur. Google n'interdit pas qu'on utilise des intelligences artificielles. Ce que demande Google, en fait, c'est du bon sens, c'est qu'on réponde à une question posée. C'est-à-dire qu'en fait, si quelqu'un tape dans Google MLM définition, c'est quoi le MLM? Il faut que l'article réponde à la question. Donc, si tant que l'article répond à la question, c'est bon. C'est vrai que avec l'intelligence artificielle, le risque, c'est de faire beaucoup de blabla avec des digressions, du hors-sujet, même si ça a l'apparence d'être logique et cohérent. Mais le risque, c'est pas de totalement bien répondre à la question, de pas être assez factuel, comme je le disais à l'instant. Et Google demande à ce qu'on réponde clairement à la question posée. C'est tout ce qui lui importe. Voilà, parce que les gens tapent en fin de compte une requête sur le moteur de recherche et les utilisateurs ont besoin d'avoir des éléments de réponse. Et tant que ça, c'est respecté, le reste, Google s'en fout. Après, je pense que il y a des contenus dont on voit comme le nez au milieu de la figure que c'est du chat GPT. Tu vois, par exemple, je m'intéresse beaucoup en ce moment à Quora. J'aime bien Quora parce que les publications ne meurent jamais par rapport à Facebook ou Instagram, etc. Puisqu'en fait, le nombre de vues continue d'augmenter même quand tu arrêtes. C'est pour ça que c'est intéressant Quora, mais ça, c'est un autre sujet. Mais ce que je voulais surtout dire, c'est que sur Quora, on voit beaucoup de contenu. Mais vraiment, on a envie de mettre en commentaire, merci ChatGPT, parce que c'est du
Ouais,
ChatGPT
c'est ça.
pur jus, tu vois. Et ça se voit. Et en tout cas, ceux qui utilisent ChatGPT, moi j'utilise ChatGPT tous les jours, hein, je le vois, quoi. Donc du coup, je pense que ça va, et pour terminer sur cette question, ChatGPT, les intelligences artificielles vont au contraire mettre en valeur les experts.
Ouais, je suis d'accord. Je suis
C'est-à-dire que
d'accord.
les vrais experts, ils vont ressortir. Voilà, enfin, ça, c'est ma vision.
Ouais, je suis plutôt d'accord. Je suis plutôt d'accord. Et c'est vraiment le sentiment qu'on a justement quand on utilise ChatGPT. C'est que moi, je lui fais pas confiance encore, tu vois, quand je pose une question, je lui fais pas confiance en sa réponse. Tu vois,
Oui.
donc ça veut certainement dire qu'on connaît bien le sujet et que du coup,
Totalement.
on sent qu'il peut être un peu limité à ce niveau-là.
Ouais, et puis il y a beaucoup de répétitions également quand on lui demande des réponses très très longues. Il faut vraiment réécrire. Hein. Il faut vraiment réécrire. D'autant que les répétitions un peu abusives, elles peuvent être pénalisées par Google parce que c'est de la suroptimisation. Tu
C'est
vois?
vrai.
Voilà. Bon, enfin, quel a été ton plus gros défi avec ton blog? Un truc qui t'a vraiment donné mal à la tête.
C'est vraiment les trucs, tu sais. Tu comprends pas pourquoi ça marche pas. Tu sais, les éléments techniques. Et ça,
Ah oui.
c'est terrible sur Internet. Tu sais, j'ai utilisé aussi beaucoup ClickFunnels, etc. Il y a des choses, tu comprends pas pourquoi ça fonctionne pas, mais plus dans les éléments techniques, tu sais. Et
Oui.
vu que moi, j'étais à peu près nul, tu vois, quand j'ai commencé, chaque phase, nouvelle phase technique, tu vois, que je voulais mettre en place, eh bien, c'était, tu sais, des nouvelles problématiques et je comprenais pas toujours pourquoi ça marchait pas. C'était pas, pourtant, j'avais l'impression de faire exactement la même chose. Voilà, c'est plus ça. Après, tu vois, l'écriture d'articles, finalement, on se rend compte que c'est pas si compliqué que ça. Dans le sens où si tu as une structure assez établie, que tu l'as déjà faite plusieurs fois, tu peux vraiment t'appuyer dessus. Tu comprends, alors moi j'analyse beaucoup les sociétés, au fur et à mesure, tu comprends très vite, sans avoir à pousser trop la recherche, ce qui va aller, ce qui va pas aller, ou tu vois, ce qui te plaît, ce qui te plaît pas, tu vois, en essayant de rester objectif, même si à un moment donné, tu es obligé d'avoir une sorte d'avis pour faire la différence, justement. Mais ouais, c'est plus les éléments techniques, moi, qui m'ont saoulé au départ. Comprendre pourquoi ton site ne va pas assez vite et quoi faire, etc. Donc, je me suis appuyé beaucoup sur des personnes extérieures pour justement, tu vois, améliorer la rapidité du site, faire des analyses SEO du site, etc. Parce que ça me stresse. C'est vraiment un truc stressant pour moi, l'optimisation de ce que je fais, quoi. De pas être sûr que soit pas optimisé, tu vois, tout ce que je fais.
Ouais, c'est vrai que
Plus les éléments techniques.
c'est un vrai sujet. C'est qu'il ne faut pas simplement écrire, il faut aussi s'occuper de la partie technique. Hein, mais il ne faut pas non plus que la partie technique cannibalise tout le temps qu'on y consacre. Parce que c'est vrai que l'essentiel, ça reste quand même de produire du contenu.
Et c'est vrai que ça a été par phase. J'ai vraiment eu des phases où, tu sais, à un moment donné, tu as vraiment envie de passer, tu sais, comme une étape supérieure. Donc là, tu vas vraiment te focaliser sur les petits détails de ton blog. Mais moi, je suis un peu bourrin, tu sais, dans ma manière de travailler. Donc je m'arrête peu sur les détails, tu sais, j'en vois un peu pur comme les vidéos, etc. Je sais que c'est un défaut, mais parfois, je reviens justement sur ces éléments plus techniques qui peuvent, tu sais, amener un truc supplémentaire au site. Et c'est là où je me prends la tête en général. Et ça prend du temps, effectivement.
Alors, au jour d'aujourd'hui, ton blog, indépendamment du MLM auquel tu participes, te rapporte de l'argent. Tu vends des formations, je sais.
Oui.
Tu as une académie qui s'appelle Networker Connecté, c'est bien
Oui,
ça?
c'est ça.
Voilà.
C'est ça. C'est un nouveau truc que j'ai sorti en janvier, ça.
Voilà, on va en parler dans un petit instant, mais globalement, ton blog te rapporte-t-il un revenu
Oui,
mensuel?
par rapport aux formations, on est à peu près. Alors, je prends une moyenne. Il y a eu des périodes où c'était plus haut, d'autres plus basses, mais entre 5 et 6 000 euros par mois de
Oui.
vente de formation, à peu près.
Ouais. Ouais, ce qui est vraiment une performance. Tu dois être le seul à avoir ces résultats dans. Tu as des partenaires qui ont les mêmes résultats?
J'en ai qui montent là. J'en ai qui montent, qui arrivent à avoir des 2 000, 3 000 euros de vente de formation. On compte pas la partie MLM où on n'a pas le droit de sortir les chiffres. Non, non mais effectivement, il y en a qui montent. Et je pense que, tu vois, ceux qui montent, c'est vraiment, ils ont une sorte de personnalité. Et puis, ils sont aussi visibles un peu sur les réseaux. Il y a ce lien de confiance qui se crée. Et je pense que ça, c'est important. Et moi, je le ressens. Quand j'ai eu une période, par exemple, où j'avais un canal Telegram. C'était en 2021, j'avais même sorti une formation, etc. Et du coup, je le voyais. En fait, mes niveaux de vente avaient vraiment monté sur l'instant. Je m'en étais pas forcément rendu compte que c'était peut-être lié à ça, parce qu'à la base, j'étais pas du tout sur les réseaux sociaux. Mais je me rendais pas forcément compte que c'était lié à ça. J'en ai eu un petit peu marre du canal Telegram. Un an et demi après, je l'ai arrêté parce que je pensais que c'était pas, il y avait pas un énorme impact. Quand je l'ai arrêté, les mois qui ont suivi, j'ai vu une baisse au niveau des ventes, tu vois, sans forcément me rendre compte que c'était forcément lié au canal Telegram. Et quand je l'ai relancé l'été dernier, hop, tout de suite, les ventes ont augmenté. Donc, je pense qu'à un moment donné, tu vois, les gens ont besoin de nous sentir un petit peu quelque part, plus proche, plus accessible, la possibilité de nous envoyer un simple messenger où on puisse répondre. Et je pense que ça fait comme la différence. Moi, je l'ai vraiment ressenti.
Oui, c'est clair que les réseaux sociaux créent de la proximité et qu'on peut difficilement en créer avec de l'écrit. Donc il faut compenser et c'est pour ça que c'est important d'avoir une présence ailleurs que sur son blog. Je partage ton avis. Alors tu sais que à partir du moment où tu as un blog, et je le dis aussi pour nos auditrices et nos auditeurs, mais à partir du moment où tu as un blog qui ramène des revenus, il a une valeur d'actif au sens comptable du terme. C'est-à-dire qu'il peut se revendre 18 fois le chiffre d'affaires mensuel, je crois. Donc, c'est que ce qu'on appelle les sites d'affiliation de niche sont très recherchés. Ils sont très, très recherchés. Je dis ça pour se donner une motivation de se lancer dans le blogging, parce que finalement, c'est pas du tout du temps perdu, puisqu'on construit un patrimoine. Voilà. De la même façon que quand on construit un énorme réseau en marketing de réseau, enfin un réseau qui arrive à maturité, c'est un patrimoine également. C'est comme ça qu'il faut concevoir le business d'une façon générale.
Et c'est vrai que, bah, tu vois, même si je suis sur le réseau, mais pendant longtemps, j'ai pris les réseaux un peu comme, c'est un test ou montrer l'exemple, tu sais, à mes équipes, comment on pourrait faire, etc. Mais le blog est resté mon élément central d'acquisition prospect. C'est vraiment une des bases et je sais finalement par mois, tu vois, les revenus que je vais avoir. Et ça, c'est simplement lié au blog, en fait.
Oui.
Tu vois, on arrive à faire la corrélation entre le trafic, l'acquisition prospect, du coup, ce qu'on va pouvoir vendre derrière. Donc, c'est hyper intéressant. Ça donne beaucoup de stabilité, de visibilité. Et on est moins dépendant, tu vois, des vidéos qui vont marcher ou pas, des choses comme ça. On a vraiment ce truc récurrent qui est hyper, hyper intéressant.
Ouais, c'est vrai que
Et c'est grâce à ça que j'ai pu arrêter la kiné. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vois, je gagnais entre 10 et 15 000 euros par mois, à peu près avec la kiné, parfois un peu moins là aussi et un peu plus, tu vois. Et pour arrêter, il fallait que j'aie une sorte de certitude quand même par rapport aux entrées.
Bien
Alors, il y avait le
sûr,
côté
bien sûr,
MLM que je
bien
développais
sûr.
moins à l'époque. J'étais beaucoup plus pour l'instant sur le côté formation en 2020. Mais après, effectivement, l'acquisition par le blog et savoir combien j'allais gagner le mois suivant et les mois qui allaient à venir était quelque chose d'hyper important. Hein.
Oui, c'est vrai que tu pouvais pas faire n'importe quoi. Alors, parlons un peu de ton académie. Pourquoi tu as lancé l'académie? Ce qui est en fait une formule par abonnement qui permet aux personnes d'accéder finalement à tout ton catalogue.
Ouais, c'est ça. Bah, je faisais des coachings avant. J'avais créé, bah, tu étais intervenu d'ailleurs en tant
Oui.
qu'écrivain, etc., dans l'université du blogging. C'était une formule qu'on avait mise en place pour accompagner les gens justement pour créer leur site internet. Et après, j'avais arrêté finalement l'accompagnement, le coaching, etc., en 2021 quand j'ai lancé mon équipe de marketing de réseau. C'est les ninjas.
Oui.
Et du coup, j'avais arrêté parce que moins de temps, besoin de me focaliser et de mettre de l'énergie dessus. Et du coup, il y avait, tu sais, j'avais toujours eu ce sentiment qu'il manquait quelque chose dans mes offres et quelque chose de plus proche avec les personnes qui voulaient s'investir encore plus au travers des formations. Donc là, le but, c'est de créer un truc qui serait pas du coaching individuel, mais qui s'en rapprocherait le plus possible. Et donc finalement, l'école du networker connecté est un endroit où on peut échanger en fait, où les gens peuvent poser leurs questions, où je peux répondre, et en même temps qui me permet donner une formation chaque semaine sur ce que moi je vis, tu sais, au travers du marketing de réseau, ce que j'ai appris, les erreurs, tu vois, mais toujours lié à Internet, toujours lié à cette connaissance Internet et voilà pour donner le meilleur, tu vois, et puis en même temps, ça permet de faire des petits coachings quand même en groupe, enfin voilà, avoir une proximité plus importante avec les élèves.
Et ça, c'est ouvert aux personnes, quelle que soit leur société MLM.
Ouais.
Et ça, c'est
C'est
intéressant.
ça. Ouais, c'est intéressant, et finalement, parce que en fait, la formule Internet, elle est bonne pour n'importe quel business, même tu sais, hors MLM, c'est toujours le même processus, c'est exact. D'ailleurs, c'est très frustrant hein, de voir des gens travailler. Tu sais, j'ai des groupes de marketing réseau et je le vois des fois, ces stratégies tu sais, de publier dans ces groupes MLM qui n'ont pas de sens, etc. C'est hyper frustrant, tu vois. Ouais.
Est-ce que tu testes des approches digitales? Est-ce que tu fais
Ah
des
ouais.
expériences?
Je fais que ça, je crois. Je fais que ça. C'est ma vie, ça. Tu sais, c'est ma vie et j'en rate tellement plus que j'en réussis. Mais ça vient par le fait que j'ai ce blog qui marche très, très bien, tu vois, qui me ramène cette source de prospects et qui me permet de tester. Mais je peux faire ça parce que je suis resté pendant 2, 3 ans que avec le site Internet. 3 ans même, que avec le site Internet. J'avais pas de réseaux sociaux parce que du coup, avec mon activité de kiné, c'était pas forcément très adapté. Donc pendant 3 ans, j'ai vraiment travaillé sur Google. Ça a permis de mettre une grosse stabilité par rapport à ce site internet. Et après, je me suis amusé avec les réseaux sociaux. Donc effectivement, j'ai testé les groupes Facebook. J'ai testé. Il y a surtout un truc qui m'aime pas, c'est Instagram. Je sais pas pourquoi, mais je me suis banni un compte. Et puis après, enfin voilà. Mais ouais, j'essaye beaucoup beaucoup de choses.
Ouais, ça fait partie aussi de la culture digitale, c'est qu'on est en test permanent.
Ouais. Ah ouais, c'est
Ouais,
clair.
je pense
Ça
que c'est.
bouge tellement, tu
Ouais.
vois, rien que l'apparition des vidéos courtes sur Facebook il y a à peine un an, qui a complètement transformé finalement la prospection, quoi. Ça veut dire que si on était resté bête et un peu con, tu vois, dans notre manière de faire, eh bien, ça aurait pas permis, tu vois, de upgrader le business de beaucoup de gens qui se sont lancés dans les vidéos courtes et qui ont créé des communautés énormes, quoi.
C'est ça, il faut upgrader constamment.
Ouais.
Et donc, là aujourd'hui, je sais que tu fais partie des leaders de ta compagnie. Tu as vraiment une progression très significative. Est-ce que Internet, c'est la seule raison de ton succès?
Ouais, je sais pas comment dire. Ouais, alors, oui, tu
C'est
vois,
pas un piège, hein, c'est pas une question piège.
ouais, non, mais ça m'a mis plein de trucs dans la tête là, tu sais, par rapport au comportement, par rapport, il faut être un peu fou aussi, tu vois, c'est-à-dire, moi, je suis pas mal fou de travail, un peu moins maintenant. J'ai un peu moins d'énergie que je pouvais avoir il y a 2 ans. J'ai des potes dans le business, du coup, qui sont un peu fous comme moi, tu vois, dans l'intensité de travail. Le détester l'échec, tu vois, c'est aussi un comportement, tu sais, global qui permet à un moment donné, tu sais, de faire les choses, d'avoir plus peur de pas les faire que peur de les faire, par exemple. Mais en tout cas, j'aurais pas pu réussir, je pense, s'il y avait pas eu Internet. Comme tu le disais en intro, j'ai testé un peu, tu sais, au cabinet de kiné, c'est tellement pas moi, tellement aux antipodes de ce que je suis, tu vois, au niveau relationnel, etc. Ça aurait été très très compliqué et je pense pas que j'aurais poussé le bouchon aussi loin. Mais ouais, après c'est surtout des traits de personnalité. Je le vois dans mon équipe, on arrive presque à avoir tu sais, quel trait de personnalité permet à un moment donné
Oui.
d'upgrader. C'est que l'intensité de travail, tu sais, la tête à vouloir absolument avancer, 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 enfin.
Quand je te posais cette question, c'est parce que j'imagine aussi que quand on parraine des personnes ou quand on vient de les parrainer, en fin de compte, le travail commence. Donc tout l'effort qu'on met dans la prospection en ligne, le marketing digital, c'est hyper important, c'est certain, mais en fait, on n'a pas encore commencé, puisqu'on ne commence vraiment que quand on intègre les gens, parce qu'il faut les garder, il faut les animer, il faut les faire réussir. Et là, Internet, c'est pas forcément l'explication de la réussite, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? C'est
Ouais.
plutôt du management ou de la communication, je sais pas comment on peut dire.
C'est-à-dire que ouais, effectivement, et du coup, je pense que bah, Internet a amené aussi beaucoup de volatilité dans les réseaux. Hein. Ouais, ça fait partie, je pense, du deal. Hein. C'est-à-dire que Internet permet de toucher beaucoup de personnes, permet d'être visible, mais du coup, il y a énormément d'opportunités qui sont visibles et il y a beaucoup d'instabilité dans les réseaux. Alors, je sais pas par rapport à avant comment c'est, mais j'ai eu écho qu'avant, bah voilà, il y avait quand même un peu plus de stabilité, moins de, tu sais, de transfert de réseau à droite à gauche. Donc, si finalement on a cette faculté à parrainer plus facilement, on va contrer en fait cette volatilité et on peut mettre beaucoup plus d'énergie dans l'animation d'équipe, dans tous les formats de formation qu'on va avoir derrière. En 2022, tu vois, notre objectif, il était clair, il était on doit se voir. On doit se voir en vrai, on doit créer tu sais, des lieux de rencontre. Donc on s'est vu peut-être 10aines de fois. Tu sais, dans des villes, on a fait nos séminaires d'équipe à nous, les séminaires de la compagnie, on a fait, voilà, on essaye vraiment de mettre ça dans une sorte de routine de travail parce qu'on a vu que ça avait une influence énorme en fait sur la rétention du réseau, la motivation des gens, un truc que moi je percevais pas parce que j'avais pas forcément besoin, tu vois, mais j'ai senti effectivement en le faisant que c'était utile déjà pour moi, ça fait du bien aussi, tu vois, mais pour des personnes c'était absolument déterminant de se voir en vrai. Il y a une sorte d'énergie qui doit passer ou quelque chose qui va au-delà de ce que je comprends moi. Mais en tout cas, on a vu que c'était quelque chose de très, très utile et d'autant plus quand on travaille sur Internet. Et un truc que j'ai écrit il n'y a pas très longtemps et que j'ai trouvé un peu bluffant, c'est que même si on crée son équipe sur Internet, etc., etc., quand on se rencontre en vrai, tu sais, on a l'impression que les personnes qu'on a recrutées, l'équipe qu'on a construite, elles nous ressemblent quand même, tu vois. Donc, on arrive
Ça, c'est
finalement à
marrant.
transposer notre personnalité même au travers d'Internet, au réseau qu'on est en train de construire.
Oui, il y a beaucoup de ça. Après, c'est vrai que tu as raison de le souligner. Le 100% virtuel, ça a quand même une limite. On a tous besoin de voir les gens en chair et en os. Et on a surtout besoin d'avoir en soi un sentiment d'appartenance. Quand on rejoint une équipe ou une société. Et d'ailleurs, je crois que tu es un fouteux.
Ah
Oui,
ouais.
Et donc, en foot, il faut avoir un esprit d'équipe, sinon on meurt, quoi, non?
Ouais. Mon fils fait du rugby, tu vois, et du coup, je suis avec lui beaucoup. Enfin, fais partie des entraîneurs et j'adore le sport vraiment. Et j'ai toujours eu aussi ce truc très collectif. Et c'est pour ça, je pense aussi que je continue le marketing de réseau, parce que sinon, tu as envie de tout jeter souvent, tu vois, dans le marketing de réseau. Mais ce truc d'équipe est quelque chose qui nous anime. Et j'ai eu la chance de rencontrer, ben, je parlais de Miguel tout à l'heure, mais je pourrais en citer d'autres, je vais pas le citer, sinon je vais en oublier. Miguel était un des premiers, tu vois, que j'ai rencontré, et lui aussi était un footeux. Et cet esprit d'équipe, cet esprit d'entraide est quelque chose qui nous anime beaucoup. Je sais pas comment on arrive à le transposer sur le business, mais on aime être leader, tu vois, on aime être sur le devant, tu vois, tirer les gens, enfin, tirer les gens, on s'entend, c'est pas forcément tirer, mais les inspirer, influencer, etc., le réseau, etc. Mais on aime beaucoup donner à l'équipe et voir cet ensemble grossir, c'est quelque chose de très stimulant pour nous. Et j'adore le PSG, effectivement.
Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est de la dynamique de groupe, tout ça, et qu'il faut s'y intéresser dès qu'on commence à avoir ne serait-ce qu'une petite équipe.
Ouais, c'est vrai. Et chaque fois on va baisser en intensité, parce que des fois, ça arrive, hein. C'est-à-dire que, tu vois, en 2021, on avait mis vraiment beaucoup d'intensité dans la construction d'équipe. C'était le départ, etc. Donc, on a beaucoup, beaucoup travaillé. En 2022, on a eu comme un besoin de souffler, je pense. Tu sais, un besoin de relâcher un peu la pression, etc. Et on l'a ressenti, en fait, tu sais, au niveau de l'équipe. C'est-à-dire, nous, on mettait pas une grosse intensité. Donc, l'intensité de l'équipe pouvait baisser un peu. Et donc, on a besoin d'être présent et d'avoir une animation d'équipe qui soit forte. Et elle va être forte, notamment parce que, bah, petit à petit, il y en a qui vont émerger et qui vont prendre un peu le relais, tu vois, et finalement, ça va se partager. Mais ouais, c'est tellement important dans l'énergie. Et après, tu parlais du sentiment d'appartenance. On se fout pas mal de ma gueule avec l'histoire des ninjas, surtout en off, tu vois, à l'extérieur, etc. Mais ça, c'est un élément qu'on a travaillé justement pour le sentiment d'appartenance. Quelque chose de différent, particulier. Donc, on essaye en interne, tu sais, de mettre des ninjas partout, etc., pour qu'il y ait une atmosphère qui soit un petit peu particulière et que les gens soient fiers, tu sais, d'appartenir à cette entité.
Ah oui, mais tu appliques un concept qui est établi, qui a été documenté quand on fait du marketing, c'est qu'il faut, en fait, il faut être communautaire et même aller au-delà. Il faut créer des clans et nommer la communauté qu'on veut créer. Enfin, ça fait partie des conseils qu'on dispense quand on fait du marketing communautaire. Et donc, ça fait les choses dans les règles de l'art. Les gens qui se moquent de toi sont ignorants du sujet, hein, c'est tout.
Ouais.
Mais tu as exactement fait ce qu'il fallait faire. C'est parce que c'est comme ça que ça marche. D'ailleurs, le marketing d'aujourd'hui devient de plus en plus communautaire, hein. Tout le monde recommande, pour se lancer en ligne, de commencer à réfléchir sur comment on crée une audience de gens ciblés.
C'est vrai.
Et même moi, je sais qu'en dehors du MLM, j'accompagne beaucoup de créateurs d'entreprises parce qu'on me paye, on me sollicite pour ça. La première chose que je fais très très souvent, ce que je dis aux gens, avant de vous lancer dans un projet, essayez de voir si vous pouvez déjà créer une audience de gens qui s'intéressent à votre idée ou à votre produit, parce que vous allez pouvoir faire tellement de tests et avoir tellement de feedback que ça va vous propulser. Il y a des histoires comme ça de gens qui ont créé d'abord des communautés très très importantes. Je pense par exemple à Nina Ramen, ça n'a rien à voir avec le MLM. Et pendant plusieurs années, elle a publié du contenu sur LinkedIn pour parler de copywriting, c'est de la persuasion par écrit, alors qu'elle était salariée. Et puis un jour, elle s'est mise à vendre un produit. Le premier mois, elle a fait 10 000 euros. Et elle a démissionné de son poste pour faire que ça. Donc en fait, elle a adopté un schéma qui est devenu aujourd'hui presque académique parce que on sait que c'est une voie qui marche. C'est d'abord créer une communauté. Donc, c'est ce que tu as fait.
Et tu vois, tu parlais de ciblage tout à l'heure. Je pense que le danger, tu vois, des réseaux aujourd'hui, il est vraiment dans la perte de temps. C'est-à-dire que c'est clair, tu sais, tu prends des réseaux comme TikTok où tu peux avoir des communautés. C'est plus des communautés, tu sais, parfois. C'est tu peux avoir des milliers d'abonnés, des milliers de demandes, de commentaires, etc. Sauf que quand c'est pas ciblé, t'amènes les gens à perdre un temps incroyable dans ton équipe, tu vois. Finalement, ils vont traiter peut-être 100 commentaires pour avoir une vente peut-être. Et finalement, ils vont s'épuiser, ils vont se fatiguer. Et c'est vrai qu'avoir quand même un énorme ciblage de ces... Nous, on travaille vraiment par strat, bah, tu sais, comme un tunnel, hein. C'est-à-dire que, tu vois, on travaille sur les grosses communautés, TikTok, Facebook, etc. Puis on amène, tu vois, dans un groupe ou un canal Telegram, ou dans les newsletters, tu vois, et on affine comme ça pour que le temps de nos équipes soit vraiment optimisé pour avoir un ciblage très performant avec une communauté très resserrée pour que les gens justement sentent qu'ils fassent partie comme d'une communauté, quoi.
Oui, c'est ça. Oui, parce que ce qu'il faut dire et peut-être redire, c'est que finalement, ta compétence va au-delà de simplement faire du blogging. Tu aides tes partenaires aussi à être présents efficacement sur les réseaux sociaux, indépendamment du blogging.
Ouais, je pense que le alors tu vois, j'ai quand on a lancé notre équipe en 2021, on a rejoint bah, Stéphane Page que tu connais, qui était qui avait une duplication sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'on avait le sentiment que ça restait un peu place to be, tu vois, vraiment l'endroit où le plus duplicable d'Internet, ce qui est réel, hein, ça demande beaucoup moins de compétences. Donc effectivement, on a élaboré petit à petit des cheminements par les réseaux. La vidéo courte a donné comme un virage qui était un vrai tournant à l'activité, qui nous a amené à faire les choses totalement différemment. T'es très visible, mais t'as besoin de sélectionner les gens, mais en même temps t'es très visible, donc ça c'est plutôt cool, tu sais, ça fait du bien parce que parfois t'avais l'impression de faire les choses et que personne n'interagit. Aujourd'hui, si tu places bien les choses, tu peux être très très visible. Donc ouais, mais je pense que tu sais, une fois que tu as compris comment ça se passait sur Google ou autre, je pense que tu as compris comment ça se passait partout, à quelques éléments près, tu vois, un peu spécifique à chaque plateforme, mais finalement tout se ressemble en fait, hein, non? Ouais.
Oui, enfin, il y a un tronc commun, oui, tout à fait.
Ouais, il y a un
Oui,
tronc commun. Ouais.
il y a un tronc commun, il y a des points communs. Après, est-ce que tu aurais un ou deux conseils à donner aux personnes qui voudraient être efficacement présentes sur les réseaux sociaux?
Ouais.
Tu leur conseillerais en deux points?
Le... Ouais, deux points, bah c'est vraiment le premier, c'est de vraiment choisir son sujet, tu vois. Bah, après c'est des trucs très banal, c'est banal, c'est non banal, c'est des trucs très banals, tu vois, mais qui sont tellement importants et qui sont malheureusement pas assez faits parce qu'on a, j'ai l'impression qu'on a beaucoup la flemme, tu sais, de devoir réfléchir et qu'on préfère, tu sais, tomber dans un cheminement où on copie-colle un peu les posts qu'on peut entendre, tu vois, de ces uplines, mais choisir vraiment, tu vois, sa niche. En resserrant, tu sais, un minimum, c'est-à-dire que si par exemple on est, je prends notre cas où tu vois il y a pas mal qui travaillent sur la perte de poids, bah c'est essayer de resserrer encore, tu vois, par rapport à une thématique, la perte de poids et bah, la thyroïde, la ménopause, la perte de poids, le sport, la perte de poids chez les hommes de 30 ans, tu vois, vraiment avoir ce truc resserré parce que finalement, on revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on peut vite perdre son temps aussi à traiter énormément de demandes. Alors que nous, notre but, c'est d'avoir peut-être 10-15 ventes par mois et ça suffirait, tu vois. Donc, il faut pas hésiter à vraiment resserrer. Et puis après, une fois que tu as resserré le sujet, ça veut dire que derrière, tu vas avoir beaucoup plus de clarté dans tout ce que tu vas faire, beaucoup plus de clarté dans ta com, être beaucoup plus pertinent. Et tu vas savoir, c'est plus facile de savoir quoi dire quand le sujet est très resserré, parce que du coup, ben, tu sais, tu vas élaborer, tu vas étudier le sujet. Et du coup, ça va sortir plus facilement que quand c'est trop large, tu sais jamais par où commencer. Donc voilà, c'est vraiment avoir une niche resserrée. Et puis après, ouais, faire des vidéos, ça reste, je pense, tu vois, un hack, tu sais, qui permet de vraiment gagner beaucoup de temps aujourd'hui dans la création de communauté.
Oui, en fait, tu dis une chose qui est excessivement intéressante, c'est que plus on est niché, plus on est perçu comme un spécialiste ou une spécialiste. Et
Ouais.
donc, c'est comme ça qu'on crée de la crédibilité en fin de compte. Alors que si on parle d'un sujet très, très vague, comme la perte de poids, puisqu'on parle de poids, c'est un sujet vague. Alors que si on parle de la perte de poids, mettons pour les entrepreneurs, je dis ça comme ça, hein, ça pourrait être autre chose, pour les entrepreneurs qui ont plus de 50 ans, donc ils sont à la fois entrepreneurs et ils ont plus de 50 ans, là, on commence à resserrer. Et plus on resserre, et plus on passe pour un spécialiste. Et donc, du coup, on est contacté plus efficacement, en tout cas plus régulièrement. Et c'est les bonnes personnes qui nous contactent. Et ça,
Et
c'est
tu
très...
sais, Ah,
Ouais,
pardon, excuse-moi.
vas-y.
Non, mais ça me rappelle, j'avais acheté une, quand j'ai commencé le marketing dodo, j'avais acheté une de tes formations sur LinkedIn, tu vois. Et il y a un
Oui.
truc que je me rappelle que tu disais dans cette formation, et que, alors, moi, je suis nul en référence, mais je sais que c'est chez toi que je l'ai lu en premier, tu vois. C'est il y a quelques années maintenant, où tu disais, bah, voilà, pour être expert, il faut à peu près 10 000 heures de travail. Tu
Ouais.
vois ce que je veux dire, 10 000 heures de travail, à peu près 7 ans. Tu vois? Et donc, quand tu as un sujet qui est très resserré, comme tu disais, les hommes de 50 ans, bah, ça veut dire que ton apprentissage va être beaucoup plus rapide
Oui.
vers ton objectif d'aider ces personnes-là. Alors que
Oui.
si tu vas sur la perte de poids, tu sais, comme quand tu fais les études de kiné, bah, tu es très large, donc tu es moyen, tu sais, quand tu sors de l'école, tu n'es pas très, très bon. Alors que si tu sais, tu avais une grosse spécialité, genre le genou, eh ben, tu serais un expert en temps très court. Et
Oui.
donc, effectivement, si ta niche est très resserrée, ça veut dire que, ben, tu vois, si tu prends la paire de poids, la thyroïde, ben, tu vas comprendre la thyroïde, tu vas y aller dessus tout le temps, tout le temps, tout le temps, et tu vas devenir très performant beaucoup plus rapidement. Et donc, ben, comme tu disais, on devient un expert encore plus énorme beaucoup plus rapidement que dans un
Oui,
truc très large.
c'est ça. Il faut donc c'est ça, c'est un vrai conseil, c'est choisissez votre sujet.
Ouais, c'est ça. Mais on passe pas assez de temps, hein. C'est vrai que on passe pas assez de temps de peur de rater des choses, je pense. Tu vois, c'est plus la peur de, ouais, la peur de rater des choses. Alors qu'on en gagne vraiment, on gagne du temps, on gagne de l'énergie et on gagne en pertinence.
Alors pour revenir au blogging, tu sais qu'il y a une technique que tu connais très très bien, que tous les blogueurs MLM connaissent, qui consiste à faire des revues d'entreprise, hein, parce que les mots-clés correspondant aux marques, aux entreprises sont abondamment tapés dans Google. Est-ce que ça va pas avoir une limite? Parce que finalement, tout le monde fait ça.
Ouais.
Tout le monde se met à faire des revues d'entreprise. Et donc, est-ce que ça n'a pas une limite parce que ça va devenir finalement très concurrentiel?
Alors, du coup, moi j'ai un peu honte, tu vois, d'avoir fait ça, tu sais, après un mois de MLM, tu vois, alors que tu connais rien, tu comprends rien, tu vois. Donc, tu sors des analyses qui sont un peu nulles. Et encore aujourd'hui, tu sais, parfois, tu analyses le truc, mais alors maintenant, ça va mieux, mais t'es pas très pertinent, tu vois, dans le délire. Donc, déjà, ça, c'est une limite. Tu sais, à la compétence initiale qui fait que, bah, effectivement, quand je lisais tes articles à l'époque, bah oui, tu sais, il y a une vraie différence, tu sais, de niveau. Et après, par rapport à la limite, je pense qu'effectivement, il y a d'autres choses, peut-être à faire. Tu sais, comme, c'est vrai que les recherches, bien que ça ait changé un tout petit peu, mais les recherches, elles sont situées autour, des entreprises de marketing de réseau, souvent faites par des gens qui sont déjà dans ces entreprises-là. Donc, est-ce que du coup, il n'y aurait pas un axe du style plus stratégique, c'est-à-dire que au lieu de taper tu sais, avis de cette société, puis on va faire une analyse un petit peu de la compagnie, etc. Est-ce qu'on n'aurait pas tu sais, un axe plus stratégique, comment réussir à vendre les produits de cette société-là, tu
Et
vois,
oui,
et avoir un regard
mais
un peu
oui.
différent, un peu déporté, quoi.
Oui, ça c'est, ce serait vraiment une manière de se différencier, en effet. Ouais, tu as raison. En tout cas, il y a matière à réflexion et il y a encore peut-être encore de belles choses à inventer. Pour terminer, Nicolas, est-ce que tu aurais trois conseils à donner aux personnes qui veulent se lancer dans le blogging MLM?
C'est le je sais pas, ouais. Du coup bah, la première chose c'est vraiment croire que ça marche déjà parce que ça fonctionne déjà, c'est
Sûr.
important parce que ça évite de s'arrêter trop rapidement. Le deuxième c'est le premier temps c'est que bah, quand son blog n'est pas connu il faut le faire connaître et les réseaux sociaux est un super moyen de faire connaître ses articles etc. pour faut pas être trop attentiste ou
Oui.
passif, tu vois. Il faut aller chercher, il faut aller chercher le trafic, etc. Et on le voit, hein, il y en a qui en profitent très bien, c'est en partageant leurs articles dans les groupes MLM. On a une chance aujourd'hui, c'est que il y a plein de groupes qui existent partout sur tous les sujets. Donc si on le fait intelligemment, on a moyen d'avoir de la visibilité en attendant avoir tu sais, de la vue de manière naturelle et organique. Donc ça serait le deuxième point. Et le troisième point, c'est de surtout pas se cacher derrière son blog. Ça, c'est la pire chose. Et c'est ce qui a amené un paquet de blogueurs à s'arrêter malgré un trafic énorme. C'est de se cacher un peu trop derrière son blog. Je sais que souvent, on fait un blog, et je crois que c'est toi qui l'avais dit ça, hein, aussi. On fait souvent un blog pour se cacher, tu vois, un petit peu. Et
Oui.
du coup, bah, il faut sortir du bois à un moment donné. Il faut être visible. Il faut faire des vidéos. Il faut, même si c'est 3 vidéos sur YouTube, mais le nombre de personnes qui m'ont dit, Et pourtant, ma chaîne YouTube, elle est pourrie, hein, franchement. Faut que je la reprenne vite, tu vois. Mais tu sais, le nombre de personnes qui vont dire, eh, je t'ai vu sur YouTube, etc. T'sais, rien qu'une une ou deux vidéos qui traînent, tu vois, un peu à droite, à gauche, permet de d'avoir une vraie, être perçu comme qui tu es plus facilement que derrière l'écriture, etc. Ouais, après, la compétence 4, ça serait, c'est vraiment passer beaucoup de temps, parce que là aussi, c'est une erreur. J'ai le droit de dire le 4,
Oui.
là? Passer, trop souvent, tu sais, on travaille notre trafic, etc., mais on passe trop peu de temps sur la monétisation. Alors que si tu avais une monétisation qui était bonne, tu aurais besoin peut-être de moins de trafic. Aujourd'hui, j'ai plus le blog, tu sais, avec le meilleur trafic, mais par contre, en termes de conversion, elle a jamais été aussi bonne. Tu vois, elle est peut-être meilleure que quand j'étais au pic de mon trafic. Donc, je pense que passer beaucoup de temps à se former sur la monétisation de ce qu'on fait, eh bien, doit être une grosse part de notre travail.
Ouais, tu veux dire la monétisation pour les personnes qui connaissent pas très bien, ça veut dire faire en sorte que ce blog vende soit des formations, soit
Ouais.
des produits physiques, peu importe, tout est possible, mais en tout cas que ça vende quelque chose indépendamment du MLM.
Ouais, ou même du MLM, hein, c'est-à-dire même, tu sais, quand on a un univers MLM, bah, ça veut dire qu'il faut parrainer, quoi, tu vois. Donc, ouais, il faut vraiment travailler ces phases de conversion-là. Ouais.
Voilà, et puis moi je pourrais rajouter aussi, c'est qu'un blog a une finalité, c'est de collecter des coordonnées de contact. Si on n'arrive pas à faire ça, ça sert pas à grand-chose. Donc obtenir des adresses e-mail et surtout avoir la possibilité de discuter de vive voix avec les personnes. Donc là, il y a un outil qui est fabuleux, qu'il faut utiliser sans arrêt et qui s'appelle Calendly. Et voilà, ça permet effectivement aux personnes de fixer un créneau sur votre agenda. Et à partir de là, vous pouvez parler de vive voix avec des gens. Et ça, c'est excessivement important. Je
Ouais,
pense que
moi,
ton calendrier, il doit être rouge tout le temps.
bah ouais, alors moi maintenant, tu vois, mais effectivement, à l'époque, j'ai fait plus de 1000 rendez-vous en l'espace de 2 ans. Il était blindé tout le temps, parce que c'était par là où ça se passait, effectivement, et tous mes parrainages passent par Calendly et Zoom tout le temps.
Et oui, donc ça, c'est vraiment très, très précieux à retenir. Merci beaucoup, Nicolas.
Avec plaisir.
Merci, c'était super intéressant. À bientôt.
À bientôt.